Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir les amis, le sport dans tous ses états, c'est tout de suite sur RFI. Alice Ménard est à la réalisation, big up Alice. Et Hugo Moissonnier m'accompagne pour la partie africaine de l'émission. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Une partie très fournie avec la fin des qualifications pour le CHAN 2020. On connaît maintenant tous les qualifiés pour la phase finale, les 15 équipes qui rejoignent le Cameroun, pays hôte de la compétition. Résultats, commentaires, interviews sont au menu. Le football au féminin, c'était le derby parisien. Paris Saint-Germain, Paris Football Club en championnat de France hier, un peu plus de 100 jours après le sacre très médiatisé des Américaines en Coupe du Monde à Lyon. C'était l'occasion de voir si les choses ont changé pour les filles du foot. Marie-Amélie Motte était sur place. Autre gros morceau de la soirée, la Coupe du Monde de rugby au Japon. Le dernier carré est au complet. C'est fini pour la France. Et le Japon, le Pays de Galles et l'Afrique du Sud ont rejoint l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Nous joindrons Cédric de Oliveira au Japon et Claire Bargelès en Afrique du Sud. Enfin, en cyclisme, c'était le dénouement du Grand Prix Chantal Biya au Cameroun aujourd'hui. L'Algérien Asdin Lagab a remporté la course dont nous dresserons le bilan avec Joël Wadem. Mais comme promis, le football africain pour ouvrir ce Mondial Sport, une large page consacrée aux éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et pour cause, Hugo Moissonnier, tous les qualifiés pour ce championnat d'Afrique des Nations sont connus.
Et le premier événement du jour, Eric, c'est le retour de la RDC, la nation la plus titrée de l'histoire du CHAN, deux succès au compteur. La République démocratique du Congo n'était pas au Maroc en 2018. La faute au Congo Brazzaville qui lui avait barré la route. En 2020, les Léopards verront bien le Cameroun, large succès, 4-1 face à la Centrafrique ce dimanche à Kinshasa. Béa Joël à deux reprises, mais également Merveille, Kikassa et Jackson Muleka sont les buteurs. Quatre réalisations inscrites en à peine une heure, tout petit bémol quand même à signaler, la réduction de l'écart signée Saint-Fort d'Imokoyen pour la Centrafrique à la 69e minute. C'est une petite piqûre de rappel pour les Congolais, elle fera du bien, nous dit leur sélectionneur Christian Tsengui-Biembe.
Je suis content de mes garçons, on a encore des réglages, on a encore beaucoup de travail parce qu'on a quand même eu à faire quand même des petites erreurs. On ne va pas bouder le plaisir et c'est bon pour le Congo, c'est bon pour nous tous. Le groupe se solidifie de plus en plus dans l'espoir qu'on aura une bonne équipe.
Il y a beaucoup de jeunes, est-ce que la discipline y est ?
Ah oui, la discipline y est, oui, bien sûr. C'est le socle, c'est la colonne vertébrale de notre travail, c'est la discipline. Je suis un peu embêté parce qu'ils ont lâché à un quart d'heure de la fin avec ce goal. Ils ont voulu, c'était arrivé. Donc je suis content, c'est un mal pour un bien, ça nous arrivera. Plus j'espère qu'on va faire attention jusqu'à la fin cette fois-ci.
Oui, elle compte la discipline pour Kaboulo. Mona Kaboulo qui a recueilli la réaction du sélectionneur des Léopards de la RDC.
On traverse le fleuve Zaïre, Hugo, pour donner la parole à d'autres Congolais heureux, les Diables Rouges du Congo Brazzaville.
Et oui, leur billet pour le troisième championnat d'Afrique des Nations de leur histoire est validé. Victoire face à la Guinée équatoriale aujourd'hui à la maison. Court succès 1-0 après un nul de partout à l'aller. Le héros congolais du jour, c'est le défenseur central Karov Bakoua. Il a tenu la baraque puisque son équipe a gardé sa cage inviolée. Il a surtout inscrit le but de la victoire et de la qualification à un quart d'heure de la fin.
Ça nous fait un plaisir énorme parce que ça fait un moment que le Congo avait perdu le sourire côté football. Donc le fait de remettre ce sourire aux supporters congolais, ça fait du bien vraiment. Ça m'a fait plaisir, surtout c'est moi qui étais le buteur. Et je remercie surtout les supporters qui étaient présents. Ce qu'on avait demandé, c'est ce qu'ils ont réalisé. Merci à eux surtout.
On a senti quelques difficultés face à cette équipe de la Guinée équatoriale.
Ouais. Au début, c'était un peu difficile vu la température, tout ça. Ils sont très forts, surtout en première période. On a réussi à les contenir et après, ils ont lâché. On est allé en avant et après, ça a payé sur le terrain.
Voilà, Bakoua, le héros congolais très classe, au micro de Jean-Ruffin Louemba.
À l'ouest, jamais 203, comme on dit, on peut dire aussi à l'ouest, rien de nouveau, mais là c'est jamais 203. Au bout du suspense, la Guinée joue de nouveau un très mauvais tour au Sénégal.
Et oui, pour la troisième fois de rang, le Sili barre la route du CHAN au lion de la Teranga des Sénégalais, qui avaient pourtant remporté la première manche, 1-0, mais des Sénégalais renversés aujourd'hui au tir au but à Conakry, Tierno Diallo.
Pour cette énième rencontre entre les deux sélections, c'est plutôt les Sénégalais qui vont se signaler les premiers. À la 15e minute, en effet, Hassan Bodje voit sa tête repoussée par la transversale de Moussa Camara. C'est la meilleure occasion de cette première période, durant laquelle les deux équipes font plutôt jeu égal, même si les meilleures situations étaient sénégalaises. Serigne Saliou Ndiaye, sélectionneur des Lions de la Teranga.
On a eu deux occasions. Notre Guinée n'a pas tiré une seule fois au but en première période. C'est ça le foot. Nous, on a essayé, on a plus ou moins arrivé, mais eux, ils ont joué plus au compte. C'était leur façon de jouer. Mais encore une fois, on dit, mais qu'on ne va pas démériter.
Mal leur en a pris, car deux minutes après le retour des vestiaires, Mamadouba Bangoura va ouvrir le score pour la Guinée sur une frappe surpuissante qui trompe Cheikh Londoï. Le match se débride et les occasions se multiplient. À la 73e minute, le gardien sénégalais suppléé par son montant gauche après une belle frappe de Michel Milimono. 1-0, score final, un partout sur l'ensemble des deux rencontres. Et à la séance des tirs au but, c'est la Guinée qui se qualifie par 3 tirs réussis contre 1. La paix Bangoura, sélectionneur du Sili local.
En deuxième mi-temps, je pense qu'on a pu contrer, avoir le but. On pouvait même mettre encore un autre but. Et je pense qu'au tir au but, à la loterie, on a eu beaucoup plus de chance que les deux équipes à peu près d'égale valeur.
Joli clin d'œil du dessin pour l'AP Bangoura qui qualifie ainsi la Guinée pour son troisième champ de suite. Lui qui avait pourtant été limogé au Maroc lors de la dernière édition après seulement deux matchs. Tchernoya Diallo, Conakry, RFI.
Renversant en effet. Contrairement aux Sénégalais, les Maliens ont pris leur revanche sur une équipe qui les avait privés de Chan il y a deux ans.
Et oui, les Aigles ont pris leur revanche sur les Mourabitoun de la Mauritanie. Les Maliens, vainqueurs 2-0 à Bamako ce dimanche. Mamadou Koulibaly en fin de première période. Alidé Sissoko en fin de match sont les buteurs. La réaction satisfaite, évidemment, de Noum Diané, le sélectionneur du Mali.
Bien sûr, il y a eu des moments chauds, réellement, ou des moments faibles aussi, de notre part. Mais vous savez, c'est un match de football et tout ça, ça rentre en compte. Et je savais très bien qu'on ne pouvait pas, pendant 90 minutes, réellement dominer ce match-là bout en bout. On savait que par moment, l'équipe adverse, quand même, qui allait réagir, je veux dire. Parce qu'ils ont des ambitions aussi, et ils ont une bonne équipe aussi, ils ont des très bons joueurs aussi. Mais malgré tout ça, je pense qu'on est parvenu quand même à marquer deux buts. Et c'était l'objectif, c'était quand même de tout faire pour gagner ici. Et sur le plan technique, je pense qu'on avait un plus quand même par rapport à l'équipe adverse. Je pense que techniquement, je pense qu'on avait un plus.
Mamadou Kaloga était là pour recueillir la réaction de Noum Diané, le coach des Aigles du Mali.
Et à l'Ouest, parfois, il y a du nouveau. Le Niger qui résiste à la Côte d'Ivoire pour se qualifier.
Ouais, le MENA qui avait remporté le match aller 2-0. Il fallait donc conserver cet avantage aujourd'hui. Au retour, ça passe limite malgré la défaite 1-0. Les regrets sont donc ivoiriens. La Côte d'Ivoire, pourtant une habituée du CHAN, Emmanuel Kofi.
Au bout d'un match maîtrisé, les MENA s'offrent une troisième participation au CHAN. Venus en grand nombre au stade Félix Houphouët-Boigny, les supporters nigériens jubilent.
On est qualifiés !
Dieu merci.
Pour les Ivoiriens, le but de Bédi Guy Stéphane en première période dans le temps additionnel n'aura pas suffi. La déception de l'entraîneur Maxime Gouaméné.
Pour ne pas être déçu quand on est éliminé d'une compétition à laquelle on avait envie de participer, à laquelle je pense qu'on méritait la Côte d'Ivoire quand même, et la Côte d'Ivoire qui devait participer malheureusement n'a pas réussi à renverser la vapeur. C'est bien dommage, mais je pense qu'on a joué avec nos armes. Il ne faut pas se voiler la face. C'est au match aller qu'on n'a pas su gérer le temps de jeu. Bon, c'est arrivé, c'est bien dommage.
Et quelles sont les premières leçons que vous tirez de cette rencontre?
Je pense qu'on a réussi nous à mettre en place le plan de jeu. Maintenant, il faut reconnaître que défensivement, ils ont été solides. Et puis après, nous, on a favorisé leur animation défensive, parce qu'on a abusé un peu à mon sens du jeu long. On aurait pu profiter en mettant le ballon au sol, ce qu'on n'a pas bien réussi, et c'est là qu'on a un peu déjoué à mon sens.
Solidité défensive affichée pour le Niger, qualifié au courage pour le CHAN 2020, Doula Haruna, entraîneur national.
On a fait l'essentiel chez nous. C'est vrai, ici, on pouvait faire mieux. Tout en défendant, on avait eu des situations pour leur compliquer un peu encore la tâche. Malheureusement, on n'a pas été très concentré sur ces ballons qu'on a pu sortir. Il faut dire félicitations aux jeunes. Ils sont allés le chercher au courage et je leur ai dit bravo pour ça.
Vous pensez déjà à cette participation au CHAN?
Bien sûr, ça va faire notre troisième participation. Là, on a une équipe qui a la possibilité d'élever son niveau. On a 3 mois pour travailler et on a la possibilité de le renforcer aussi. Moi, je pense qu'on va travailler pour être prêt d'ici mars.
Les Ivoiriens sont privés d'un 5e CHAN, mais ils ne doivent pas se décourager. Dela Souleymane, capitaine de l'équipe du Niger.
L'année surpassée, on était à leur place. Aujourd'hui, c'est vice-versa. Donc, courage, hein. Courage, vraiment.
Ce match décisif Côte d'Ivoire-Niger s'est déroulé devant un beau public, en majorité des supporters nigériens acquis à la cause des MENA. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI.
On s'est régalé avec Emmanuel Kofi.
Oui, et notamment cette supportrice nigérienne, très heureuse de la qualification du MENA. On la salue.
On l'avait remarqué. Et puis, ça passe aussi, Hugo, pour le Burkina Faso.
Oui, les étalons qui ont également conservé un avantage acquis lors de la première manche, un succès 1-0 au Ghana, sur lequel il a fallu veiller précieusement ce dimanche à Ouagadougou. Match nul et vierge à l'arrivée. Mission accomplie donc, grâce notamment au portier Aboubakar Babayoure Sawadogo, l'homme du match, grand artisan de la qualification du Burkina.
J'ai juste dit à mes éléments, il faut rester sur nos gardes. Et c'est vrai, notre premier objectif c'était de gagner. Mais moi aussi j'ai parlé à ma défense. Deuxième objectif, les gars, moi je ne veux pas encaisser ce soir. Et si je n'encaisse pas, c'est synonyme de qualification. Voilà, donc je pense que la mission est accomplie. Si vous avez bien suivi le match, je pense qu'on a eu des occasions. Le système mis en place, je pense que c'est vrai, ça n'a pas, on n'a pas marqué, mais je pense que ça a un peu fonctionné. Si le match arrive à 80-85 minutes, c'est pas la même chose que les premiers instants du match. Donc je pense que c'est ça qui nous a amené souvent à reculer et pour garder vraiment jalousement notre score d'avance.
Voilà, le charismatique portier des étalons du Burkina Faso. Propos recueillis par Gabriel Barrois. Et les deux derniers qualifiés du jour, les deux derniers qualifiés pour ce CHAN 2020. La Tunisie, qui avait remporté la compétition en 2011, on s'en souvient, qualifiée aux dépens de la Libye, la Tunisie, et le Zimbabwe, qui lui a dominé le Lesotho.
Alors les 15 équipes qualifiées pour le CHAN 2020 au Cameroun sont désormais connues. On rappelle, Hugo, que le Togo en fait partie.
Oui, les éperviers qui ont dominé le finaliste sortant, le Nigeria, 4-1 à l'aller. Défaite 2-0 hier à Lagos. Ils se sont fait peur, les Togolais, mais ils disputeront bien le premier CHAN de leur histoire. Ça valait bien un retour triomphal au pays ce dimanche, sous les yeux de Komlan Iklou.
Fanfare en tête, c'est un accueil chaleureux que de nombreux supporters ont réservé aux éperviers locaux à leur retour du Nigeria.
Ça montre encore une fois comment ce public n'est pas en désamour total avec sa sélection locale. Malgré les moments durs qu'on a traversés avec la sélection Fagnon.
Parmi les supporters heureux, le ministre des Sports, M. Foli Bazi Katari.
Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous présentons les félicitations des plus hautes autorités du pays. Vous l'avez fait. Ce que nous souhaitons de vous, c'est que cet esprit d'équipe et surtout du sacrifice pour la nation qui vous a animé depuis le début reste en vous. Et vous avez montré que vous contribuez à donner une certaine valeur à notre pays.
Tout comme le ministre des Sports, cet admirateur des éperviers relève l'esprit de sacrifice des joueurs.
Nous sommes heureux. On doit remercier ces jeunes. C'est un acte de bravoure. J'ai suivi le match à la radio. Le contenu était très dur pour eux. Mais ils ont su tirer la victoire. C'est à féliciter.
Quant à l'entraîneur des éperviers locaux, Jean-Paul Abalodossé, il est revenu sur le temps additionnel accordé par l'arbitre de la rencontre.
12 minutes qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai que les 12 minutes du traditionnel nous a vraiment fait mal. Surtout pour les joueurs parce qu'ils ont beaucoup donné avant d'arriver dans les arrêts de jeu. Même le 80 minutes n'était pas d'accord avec l'arbitre central sur le temps additionnel. Mais bon, c'est le football. On a fait l'essentiel et on peut remercier le Seigneur.
Aujourd'hui, ce qui compte pour les joueurs, c'est la qualification. Une qualification qu'ils savourent pleinement. Comme l'a Ekolo Lomé RFI.
Le Togo, l'une des 15 équipes qualifiées pour le CHAN. Il y aura, bien sûr, Eric, 16 participants.
Avec le Cameroun, le pays hôte de la compétition. On ne sait juste pas encore exactement quand cette compétition aura lieu. En janvier, ça risque d'être trop court. En juin, il y a la saison des pluies. Ça pourrait bien être en avril. Où en est le football féminin en France? Un peu plus de 100 jours après le sacre des Américaines dans la Coupe du Monde que la France organisait cet été. Nous n'avons pas la prétention de répondre à cette question de façon exhaustive, mais pour avoir quelques indications, rien ne vaut le terrain. Marie-Amélie Motte a chaussé ses crampons. Elle est allée voir le match phare de la 6e journée du championnat de France hier. C'était le derby parisien qui mettait aux prises le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. Pour l'occasion, le match avait lieu au stade Jean Bouin qui peut accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Il est juste à côté de son grand frère, le Parc des Princes, et il sonnait peut-être un peu creux, mais le spectacle était au rendez-vous.
Une petite heure avant le début de ce derby PSG-PFC, les supporters commencent à arriver sur le parvis du stade Jean Bouin dans le 16e arrondissement parisien. Des familles, des couples, des groupes d'adolescentes déjà très bruyantes, et puis des bandes de copains, évidemment, comme celle de Stéphane. Il a découvert le foot féminin pendant la Coupe du Monde, et maintenant il veut apprendre à connaître le championnat.
Je suis venu pour voir et découvrir et pour pas rester juste sur la Coupe du Monde féminine en fait. C'était cool en vrai.
Donc ouais, ça donne envie.
La Coupe du Monde en France, une réussite. Plus d'un million de billets vendus. Stéphane était allé voir le deuxième match de poule des futures championnes, les Américaines, contre le Chili. Et s'il revient pour le derby parisien, c'est parce qu'il veut
voir s'il y a autant de monde qu'avant ou pas. En fait. En plus, c'est pas très cher, donc ça va, c'est clairement abordable. Donc on va voir s'il y a du spectacle, on verra.
Et du spectacle, il y en a eu. Beaucoup d'occasions pour le PSG et deux buts de l'inévitable Marie-Antoinette Katoto. Score final 2-0, de quoi réjouir la capitaine espagnole du PSG, Irene Paredes.
C'est important pour nous d'avoir les trois points, mais aussi pour donner aux supporters la gratitude de gagner. Quand les supporters sont là, et en plus c'est habituel déjà qu'ils sont là, ça nous donne une force supplémentaire, c'est top. Ça fait toujours de bien et tout le monde a regardé la Coupe du Monde, en plus en France, et je crois que ça aide.
Ça aide, mais ce n'est pas encore totalement suffisant. Un peu plus de 2500 spectateurs en tribune. Il y a encore fort à faire, mais cela n'inquiète pas Claudia. Elle a 23 ans, elle joue au club de la Camillienne dans le 12e arrondissement de Paris et elle se montre plutôt optimiste quant à l'avenir de son sport en France.
Ça prend du temps, c'est petit à petit, mais je suis vraiment contente qu'il y ait eu la Coupe du Monde. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien, bizarrement, et ça va changer, j'espère bien. Il y a de plus en plus de monde, même pendant les matchs de Première Ligue chez les filles. Il y a des stades remplis, pareil en Espagne. Il y a plein de supporters de Bordeaux, PSG, qui viennent encourager à chaque fois les filles. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a des gens qui ne savaient pas, hein, tout simplement, que les filles jouent au foot. Là, maintenant, je pense que la majorité des gens le savent et ça ira dans le bon sens, j'espère.
Du côté des clubs, ça va déjà dans le bon sens. Le nombre de licenciés chez les femmes est en constante augmentation depuis 10 ans. La barre des 200 000 pourrait être prochainement atteinte. Cette dynamique, Christian Bello en est le témoin au quotidien. Il est président du CA Pithiviers, un club amateur du Loiret. Il est venu voir le derby avec quelques-unes des 100 joueuses que compte sa section féminine et elles sont toujours plus nombreuses.
On en a gagné peut-être 30% cette année par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà plus de 45% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est énorme.
Et pour que les filles aient de plus en plus envie de jouer au foot, Christian Bello a quelques propositions.
Leur donner une autre image de sport, là, comme elles font là, parce que c'est elles qui poussent les barrières. Nous, on n'y est pour pas grand-chose, en fait. On est simplement un relais. Après, féminiser les staffs, parce que c'est important d'avoir des femmes qui s'occupent de jeunes filles, des fois, et c'est de filles de plus petites. Voilà, faire avec les différences de chacune, et normalement, ça doit coller.
Pas d'effet Coupe du Monde notable dans les stats, donc, mais un peu plus au sein des clubs. Et passer un certain palier, qui dit plus de joueuses, dit forcément plus de supporters en tribune.
Le reportage de Marie-Amélie Motte. Sachez qu'avec cette 6e victoire en 6 matchs, le PSG est seul en tête du championnat de France, car Lyon, une fois n'est pas coutume, a été tenu en échec par Dijon, 0-0 aujourd'hui. Je crois qu'il est arrivé la même chose aux garçons de l'Olympique Lyonnais, justement face à ces mêmes...
C'est plus habituel pour eux.
Dijonais. C'est un peu plus habituel là pour l'Olympique Lyonnais au féminin, c'est vrai que ça n'est pas le cas. Allez, on ouvre maintenant la page rugby de ce mondial sport avec la Coupe du Monde au Japon. Le dernier carré de la compétition est au complet. L'Afrique du Sud et le Pays de Galles ont rejoint l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Et si les Gallois en sont, cela signifie que c'est fini pour les Bleus. Le 15 de France éliminé après s'être incliné d'un point 20-19 face au Pays de Galles à Oïta dans le sud du pays où nous retrouvons Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Eric.
Scénario cruel pour les Bleus qui s'inclinent une nouvelle fois d'un rien, forcément rageant, la qualification semblait à leur portée.
Oui, des Bleus qui ont pourtant disputé l'un de leurs meilleurs matchs des dernières années, enthousiastes, entreprenants, ils ont dominé cette rencontre en inscrivant notamment deux essais signés Sébastien Vaamaina et Charles Olivon. Le Pays de Galles a ensuite profité d'une erreur de Guilhem Guirado pour aplatir dans l'embu avant qu'un nouvel essai de Vakatawa ne donne au score une ampleur méritée pour la France. 19-10 à la pause, mais réduit à 14 après l'exclusion de Sébastien Vaamaina. On y reviendra un peu plus tard. Les Français ont ensuite fini par craquer en toute fin de match sur un essai de Ross Moriarty. 20-19, forcément rageant pour l'ouvreur Camille Lopez et ses partenaires.
On est forcément abattu, tu es éliminé d'une compétition qui est extraordinaire et voilà, on a énormément de frustration ce soir parce que voilà, il faut se le dire clairement, il y avait la place de passer en demi-finale. On est capable de faire des choses extraordinaires où on fait des jolies actions, mais quand on voit nous la difficulté qu'on a pour marquer un essai et la différence avec eux où on prend deux essais de merde pour parler poliment, mais ça fait deux essais cadeaux qu'on donne, donc à ce niveau-là c'est trop.
Le paradoxe continue donc pour les Bleus qui, malgré trois essais de belle facture, ont commis trop d'erreurs pour espérer l'emporter.
Et en tête de liste de ces erreurs, le carton rouge de Sébastien Vaamaina à la 49e minute pour un geste évitable.
Et le deuxième ligne exclu pour un coup de coude sur Aaron Wainwright que l'arbitre Jakob Pepper a vu à la vidéo. Geste d'humeur inexplicable qui a évidemment handicapé le 15 de France qui avait l'emprise sur ce quart de finale. Le sélectionneur Jacques Brunel.
Forcément, en quart de finale, jouer à 14 pendant une mi-temps, c'est compliqué. Et là, je veux mettre en avant la qualité de notre équipe parce qu'elle a su montrer de l'allant, elle a été offensive, elle a eu même eu des occasions de scorer, donc je veux mettre en avant la qualité de cette équipe.
Une équipe qui ne s'est pourtant pas désunie après cette exclusion, mais la multitude de mauvais choix dans les moments clés ont conduit à l'essai gallois, une pénalité patentée, un drop évité, et quelques maladresses dès en avant et finalement donc cette défaite d'un point des Bleus.
Et c'est donc la fin d'un cycle pour le 15 de France qui sort de cette Coupe du Monde avec un goût d'inachevé.
Oui, pas grand monde ne voyait les Français franchir le premier tour, encore moins rivaliser avec les Gallois en quart de finale, mais cette défaite est symptomatique, Eric, des difficultés du rugby tricolore lors des dernières grandes échéances, notamment sous l'égide de Guy Neuvès et Jacques Brunel, les deux derniers sélectionneurs. C'est la fin de la génération Guirado et Picamol qui prendront leur retraite internationale après ce mondial. Une génération qui aura très souvent perdu. L'ailier Johan Hugé prendra peut-être la même décision dans les prochains mois. Et lui, il préfère positiver. Et cette campagne au Japon doit permettre d'envisager plus sereinement la suite.
Oui, je pense qu'il y a une belle génération qui arrive, malgré tout. Je pense que le relais est en train de se faire. Maintenant, quand on arrive en équipe de France, il faut redoubler d'efforts pour justement essayer de mettre cette nation au rang qu'elle mérite et au rang qu'elle doit être. Donc, voilà, il y a un gros travail encore à faire. On voit que quand on est préparé pendant 4 mois, c'est plus du tout la même équipe. Donc essayons de travailler ensemble pour 2023, pour tous ces jeunes qui vont arriver, et c'est le plus important.
Le 15 de France était une des équipes les plus jeunes du tournoi nippon. Certains comme Romain Tamac, Antoine Dupont, Charles Olivon, Gaël Ficou ou encore Greg Aldrit seront sans doute les cadres de demain. Avec donc 2023 dans un coin de la tête, objectif suprême pour les tricolores qui évolueront à domicile. Charge à Fabien Galthié, qui était adjoint de Jacques Brunel lors de cette Coupe du Monde, d'entamer un nouveau cycle. Ça commencera dès le début de l'année 2020 avec, comme tous les ans, le tournoi des Six Nations.
De leur côté, Cédric, les Gallois sont donc qualifiés pour les demi-finale où ils affronteront l'Afrique du Sud, implacable, voire clinique, face au Japon.
Et fin du rêve pour les joueurs nippons qui sont tombés sur une très solide équipe sud-africaine. Les Brave Blossoms ont pourtant lutté à armes égales durant une mi-temps devant un public très fervent. Ils n'étaient menés que 5-3 à la pause sur un essai de l'ailier Mapimpi. Ce sont eux d'ailleurs qui étaient les plus entreprenants. Mais derrière, la puissance des box a fait la différence. C'est d'abord grâce au pied d'André Pollard qu'ils ont pris le large avant de nouveaux essais de De Klerk et Mapimpi. Score final 26-3. Afrique du Sud, Pays de Galles, ce sera dimanche à Yokohama.
Cédric de Oliveira de Pioita au Japon. Allez, faut filer au lit, Cédric. Et il y a un autre endroit sur la planète, ovale bien sûr, la planète, où le deuxième match du jour, Japon-Afrique du Sud, a été suivi avec beaucoup d'attention. C'est la Fan Zone, où la rencontre est très retransmise en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, où les supporters des Springboks étaient nombreux autour de Claire Bargelès, des supporters sud-africains qui craignaient avant le match de revivre ce qui avait été leur cauchemar en 2015.
Avant le début du match, tous avaient en tête le dernier affrontement en Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et le Japon. Un match qui porte même un nom, le Miracle de Brighton, du nom de la cité balnéaire anglaise où s'était déroulée la rencontre. En phase de poule, dans les arrêts de jeu, le Japon, sur qui personne ne misait, avait fait tomber le géant sud-africain 34-32. Aujourd'hui, les supporters des Springboks, comme Zami Kaya, ont retenu la leçon.
Je pense que cela nous avait un peu réveillés à l'époque, de ne pas prendre de haut ces joueurs, les Japonais. Ils ont un très bon jeu.
Plus question donc aujourd'hui de sous-estimer les Japonais, qui pointent désormais à la 8e place du classement mondial, juste derrière la France, comme l'explique Boutelet, ancienne joueuse amatrice.
Je pense qu'aujourd'hui ça va être un match compliqué, parce que j'ai regardé tous les matchs du Japon et ils ont même battu l'Irlande. Donc je pense que l'Afrique du Sud va gagner aujourd'hui, mais ça ne va pas être si facile.
It's going to be a tough match. Les supporters démarrent le match en confiance avec un premier essai de Makazole Mapimpi dès la 4e minute. Et la rencontre va être ensuite beaucoup plus serrée qu'elle ne s'annonçait, notamment avec un carton jaune côté sud-africain. Après 40 minutes, les Springboks ne mènent que de 2 petits points. Dans le public, Koulou-Manko est plutôt crispé.
Dans cette première période, j'ai l'impression qu'on perd beaucoup trop de ballons. On aurait pu faire mieux, mais je ne sais pas ce qui leur arrive aux gars.
La puissance sud-africaine aura finalement raison en seconde période d'une équipe japonaise à bout de force. Nicole peut enfin respirer.
C'est un soulagement, je suis très fier. Je pense que cette équipe est capable de gagner la Coupe du Monde. Le capitaine Siya Kolisi est incroyable. Je pense que c'est la bonne personne pour les mener à la victoire. Et il serait le premier capitaine noir à remporter la Coupe. Donc je pense que ce serait vraiment bien pour l'Afrique du Sud.
Score final 26-3 pour les Springboks, avec un essai du demi-mêlée Faf de Klerk et un autre de Makazole Mapimpi. Pour Obakeng, supporter de toujours, l'Afrique du Sud peut enfin tourner la page de la malédiction japonaise et se concentrer sur le reste de la compétition.
Je pense qu'on était traumatisés de la dernière Coupe du Monde et cette victoire fait vraiment plaisir car on les a battus sur leur propre terrain avec une bonne marge d'avance. Je pense que quand on remportera la Coupe du Monde dans quelques semaines, on aura vraiment mis fin au trauma.
Prochaine échéance pour les Springboks, dimanche prochain, contre les Gallois, tombeurs de la France. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Pays de Galles, Afrique du Sud, vous l'avez compris, c'est dimanche prochain, l'autre demi-finale, le choc Angleterre-Nouvelle-Zélande se jouera la veille. Et puis on referme ce mondial sport avec du cyclisme, la petite reine Hugo Moissonnier et l'Algérien Hasdine Lagab qui a remporté le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun.
Oui, vainqueur de la première étape, maillot jaune dès le premier jour, Lagab a dominé ce Grand Prix Chantal Biya. Il a conservé ce dimanche ses 8 secondes d'avance au général sur son rival le Slovaque Marek Kanecki. Il a même vu son compatriote Yassim Hamza remporter la dernière manche à Yaoundé aujourd'hui. Ce Grand Prix Chantal Biya 2019, son départ, je vous le rappelle, a été retardé en raison de problèmes budgétaires. 2 équipes, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont fait faux bond au dernier moment et une étape a même été supprimée. Alors, quel bilan tirer au final? Réponse avec Joël Baudem.
L'Algérien Hasdine Lagab, qui a dominé cette 19e édition du Grand Prix Chantal Biya en arborant le maillot jaune de la première à la dernière étape, pour lui, cette victoire revêt une importance particulière.
C'était une victoire très importante pour nous, pour gagner des points au classement mondial, pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Le classement se clôturera le 20 octobre. On a bien conforté notre position. Et voilà, je suis très content aussi de mon équipe surtout. Elle a bien travaillé aujourd'hui, comme les derniers jours. Ils ont laissé tous les classements de côté, même les victoires d'étape. Et aujourd'hui, mon coéquipier qui a trop travaillé a été bien récompensé. Il a remporté l'étape. On est vraiment très content.
Le Camerounais Clovis Kamzon Abesolo, qui avait les faveurs et les pronostics avant le début de l'épreuve, a plutôt été décevant.
On est un peu déçu parce qu'on a couru derrière les étapes fatigués, on n'a pas pu remporter. On était un peu en dessous des autres parce que les adversaires étaient forts, les Algériens, notamment parce qu'ils étaient vraiment très couillasses. Mais je pense qu'on va se préparer. La saison est terminée, je pense qu'on va mieux récupérer pour mieux entamer la saison prochaine.
Alain Kos-Zizak, le commissaire de l'Union cycliste internationale à cette compétition, revient sur le bilan de l'épreuve.
C'est un bilan plutôt très positif, avec un beau déroulement d'épreuve, une organisation de bonne qualité respectant les coureurs au niveau de l'hébergement, au niveau de la sécurité aussi. Et puis un parcours intéressant, varié, avec des étapes courtes, des étapes longues, des difficultés en cours d'étape et une course qui a été très disputée de bout en bout. Le niveau, il est plutôt bon, puisque les équipes qui étaient là possédaient de bons coureurs, avec des équipes nationales bien constituées, des équipes aussi de clubs de très bon niveau. Donc une course qui, pour moi, a un bon vainqueur et un très bon niveau sportif.
Malgré cette note satisfaisante, la Fédération camerounaise de cyclisme devra à l'avenir mobiliser le budget à temps pour une participation d'un plus grand nombre de pays et de coureurs à cette compétition. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
C'est la fin de ce Mondial Sport. Merci Hugo Moissonnier, merci aussi à Alice Ménard à la réalisation. Et pour la remercier justement, je vous donne le résultat de la soirée en championnat de France de football. Marseille a battu Strasbourg 2-0, Boubacar Camara dès la 3e minute et Strootman qui transforme un pénalty à la toute dernière. Les Marseillais remontent à la 4e place de la Ligue 1 à 1 point du podium. Et puis sachez qu'en Angleterre, Liverpool n'a pas gagné aujourd'hui. Les Reds ont même failli à perdre à Manchester United. Il y a eu match nul au bout du compte, 1 but partout. Bonsoir à tous.